Vous écoutez, on lit pour vous.
Schizophrénie, Lucille. J'arrive à reparler de ma première crise depuis peu. Un texte de Guillemette de Préval paru le 19 mars 2025 dans Ombres et Lumières. À l'occasion des Journées de la schizophrénie en France, Ombres et Lumières retrace l'expérience de Lucille, 30 ans, diagnostiquée schizophrène il y a 7 ans. Dans un style décontracté, la jeune femme raconte comment elle a fait face à la violence de ce trouble psychique. « Ma première crise a eu lieu en août 2016, lors d'un trajet en avion. J'avais passé quelques jours chez un ami, en Italie, et je rentrais chez moi, à Dublin, où j'habitais à l'époque. J'ai vécu une décompensation très violente. » Je me souviens avoir ressenti des bizarreries, des impressions de flash, beaucoup d'angoisse. Tout le mois qui a suivi, je ne dormais plus. J'entendais beaucoup de voix. J'avais peur de mourir si je mangeais quelque chose, donc je ne m'alimentais plus trop. J'arrive à parler de cet épisode que depuis peu de temps, tellement il a été d'une violence extrême. Cette première crise a été la plus traumatisante. Des phobies d'impulsion. J'ai été hospitalisé durant 2 semaines. J'ai fait beaucoup de sport durant cette période et ai été mis sous médicaments. Je ne voulais pas rester. Le personnel soignant a fini par me laisser partir, mais ça a été un échec. Je pensais que ma vie allait reprendre son cours normal. Mes cours en école de commerce, mon job étudiant. Or, c'est impossible après un tel choc. J'ai dû tout abandonner car cette crise a généré des troubles cognitifs. Je n'étais plus capable de réaliser certaines choses. J'avais des phobies d'impulsion dans le métro. Je n'étais pas du tout rétabli. Après ma première hospitalisation, j'ai eu comme l'impression d'une pile qui se décharge. J'avais très peur qu'une autre crise survienne. Le diagnostic de ma schizophrénie a été posé en 2018. Après avoir fait une deuxième grosse crise. On m'avait fait arrêter les médicaments pour voir comment j'allais réagir. C'est ce que font certains psychiatres pour vérifier le caractère épisodique ou régulier de la crise. J'ai été hospitalisé sous contrainte, c'est-à-dire de force, pendant 3 mois. C'est traumatisant pour la personne malade et ses proches. Avec le recul, j'ai appris à en parler. Je me doutais beaucoup de ce diagnostic, même si je craignais de l'entendre. Des personnes de mon entourage m'en avaient déjà parlé. L'apprendre m'a permis d'avancer. La psychiatre m'a tout de suite dit qu'elle avait un patient schizophrène qui avait construit une belle carrière, que ma vie ne s'arrêtait pas à la maladie et que je pouvais accomplir de belles choses. Dans un moment où l'on se sent si vulnérable et perdu, cela fait du bien de l'entendre. Des défauts d'insight. J'ai aussi eu la chance d'être bien entouré, alors qu'on sait que la schizophrénie isole beaucoup. Mon père aussi est atteint de troubles de la bipolarité depuis qu'il a 19 ans. Il a refait des crises au moment d'être papa. On en avait déjà parlé en famille, et puis, même enfant, on comprend les choses. On voit que son père ne ressemble plus à celui qu'on connaissait, qu'il a le regard vague, qu'il est fatigué et réagit très lentement. Lorsque j'ai fait mes propres crises, on a eu de longues conversations tous les deux. Ça n'a jamais été tabou. Il a été très à l'écoute. Il s'est remis en question. Je me souviens l'avoir entendu dire, en parlant à quelqu'un, « Tu crois que cela me fait plaisir d'avoir filé ma maladie à ma fille ?» Il s'est senti coupable. Quand une maladie psychique surgit, elle fait irruption aussi bien dans la vie de la personne concernée que son entourage. Mais parler d'irruption, c'est à la fois vrai et faux comme façon de décrire l'arrivée de ce trouble dans une vie. Oui, on a l'impression qu'il vient de nulle part. En réalité, il y a souvent des signes avant-coureurs. Le problème, c'est qu'il y a si peu de prévention qu'on ne parvient pas à les anticiper. On appelle ça faire des défauts d'insight, c'est-à-dire de n'avoir pas conscience de ces troubles. Lorsque j'étais adolescente, j'avais une appétence pour l'alcool. Ça calmait mes angoisses. Grâce à ça, j'étais bien. Ce comportement aurait dû m'alerter. Jeune adulte, j'ai beaucoup consommé de drogue. À une période, c'était quasi tous les week-ends. Et cela est reconnu comme faisant partie des déclencheurs d'un trouble psychique. Il y a tellement de choses à faire en termes de prévention. Aujourd'hui, j'ai une licence professionnelle de médiatrice santé père. J'exerce à l'hôpital Sainte-Anne depuis 3 ans, à mi-temps. J'ai également cofondé la Maison Perchée, un café associatif qui permet aux jeunes adultes atteints de troubles psychiques de se retrouver pour partager leur vécu. J'ai petit à petit accepté ma maladie. Je savais que la période allant de mes 20 à 30 ans allait être un temps d'apprivoisement, que j'allais la vivre à tâtons. J'apprends encore tous les jours à vivre avec elle. C'était Schizophrénie, Lucille. J'arrive à reparler de ma première crise depuis peu. Un texte de Guillemette de Préval paru le 19 mars 2025 dans Ombres et Lumières.
Les réponses de ChatGPT en matière de santé sont peu fiables. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. ChatGPT 4.0 répond incorrectement à près des 2/3 des questions diagnostiques ouvertes qui lui sont posées, ont constaté des chercheurs ontariens. Si les erreurs de ChatGPT 4.0 n'étaient pas catastrophiques, les auteurs de l'étude en viennent quand même à la conclusion qu'il reste encore des améliorations à apporter avant que ces grands modèles de langage puissent être utilisés de manière fiable dans un contexte médical. Sans ces améliorations, écrivent-ils dans le journal JMIR, Formative Research, les outils comme ChatGPT risquent de désinformer les individus. Ce n'est pas d'hier que les internautes fouillent en ligne pour élucider leurs symptômes, a rappelé Sirisha Rambatla, une professeure adjointe du département de sciences de gestion et d'ingénierie qui a supervisé les travaux du doctorant Troy Zada à l'Université de Waterloo. Mais contrairement aux réponses plus génériques fournies par des outils comme Google, des outils comme ChatGPT semblent très humains parce que la réponse est personnalisée en fonction de votre question. On pense donc que les gens auront davantage tendance à leur faire confiance, a-t-elle dit. L'étude a utilisé une 100aine de questions issues d'un examen médical à choix multiples. Les questions avaient été modifiées pour générer des réponses ouvertes. Elles reflétaient les symptômes et les préoccupations que des utilisateurs réels pourraient poser à ChatGPT. Des étudiants en médecine qui ont évalué les réponses ont estimé que seulement 37% d'entre elles étaient correctes. Environ 2/3 des réponses, qu'elles soient factuellement correctes ou incorrectes, ont par ailleurs été jugées peu claires par les évaluateurs experts et non experts. L'hypothèse selon laquelle ChatGPT n'est actuellement pas adapté à l'autodiagnostic est confirmée, écrivent ainsi les auteurs de l'étude. Sur les 3 évaluations réalisées avec un seuil de réussite de 60%, ChatGPT 4.0 n'en a réussi qu'une seule de justesse. L'analyse indique que ChatGPT 4.0 est généralement imprécis et incorrect lorsqu'il fournit des informations médicales. Cependant, lorsque ChatGPT 4.0 fournit des réponses correctes, il reste suffisamment fiable pour continuer à répondre à ces questions avec précision, même lorsque certaines informations sont manquantes. ChatGPT a par exemple répondu à un homme que son éruption cutanée était probablement attribuable à un nouveau détergent qu'il utilisait, alors qu'en réalité elle était causée par ses gants en latex. La réponse était plausible, elle n'était pas clairement fausse, a dit la professeure Rambatla. Si c'était clairement faux, ça serait facile, et c'est ça le problème. si cette erreur risque, au pire, de retarder un peu le bon diagnostic et la prise en charge appropriée du problème, on ne peut pas exclure le risque de voir un utilisateur de ChatGPT faire fi d'une situation plus grave après avoir reçu une réponse rassurante du robot. Amélioration. Les auteurs de l'étude admettent toutefois que la performance de ChatGPT 4.0 est nettement supérieure à celle de la version précédente de l'outil, qui avait aussi été mise à l'épreuve. Des preuves substantielles indiquent que les grands modèles de langage s'améliorent continuellement, ce qui suggère leur utilisation potentielle future dans les systèmes de santé, écrivent-ils. À une époque où l'accès à un médecin de famille est difficile à travers le Canada, il y a de fortes chances que de plus en plus de Canadiens se tourneront vers des outils d'intelligence artificielle pour répondre à leurs questions en matière de santé. Une enquête menée récemment en Australie a constaté qu'un habitant de ce pays sur 10 avait déjà posé une question médicale à ChatGPT. Des mesures doivent donc être mises en place pour éviter que les internautes ne se fient aveuglément aux réponses de l'IA, a dit la professeure Ram Batla, qui cite en exemple des vidéos médicaux sur YouTube qui préviennent que le contenu n'a pas été validé par un expert médical. On se tourne vers ces outils parce qu'ils sont plus facilement accessibles, a conclu la chercheuse. On ne veut pas priver les gens d'une source d'information, mais il faut que ça soit plus fiable. Idéalement, il faudrait que les systèmes puissent nous répondre « je ne sais pas » ou « je ne suis pas certain ». Le problème lui-même nous montre la solution requise. C'était « Les réponses de ChatGPT en matière de santé sont peu fiables », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
À l'ombre des géants et géantes. Une chronique de Dominique Lemieux paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. La scène me revient en tête. C'est le début de l'automne. Je suis dans le bois avec mon père. Le rugissement de la scie mécanique, l'amertume en bouche de la gorgée de thé refroidie et trop infusée, les mouvements furtifs des écureuils juchés au sommet des érables, les oiseaux dans le bouquet d'épinettes. Mon père éclaircissait la forêt. Couper les arbres affaiblis par les maladies, en retirer d'autres qui nuisent à la croissance de leurs voisins. Je m'émerveillais devant les arbres matures qui chatouillaient les nuages, les yeux tournés vers le ciel, la grâce des géants qui font rêver. Mon père, le regard vers le sol, protéger les pousses, prendre soin des érables qui peinent à trouver leur place. Il s'attaque à l'un de ces géants. « Mais pourquoi ?» je lance. Il me regarde, me sourit. Parce que le temps est venu de donner de la lumière aux autres. Au milieu des bois, une compétition pour la lumière. Ce long préambule, comme un parallèle de l'automne en librairie, la déferlante vertigineuse, le peuplement serré d'une forêt périlleuse à traverser, tout ce qu'on ne verra pas. Les yeux, naturellement, se tournent vers les noms établis, la confiance de retrouver une valeur sûre, le consensus qui se construit autour de quelques découvertes. Nous avons tous et toutes le même réflexe. Je n'ai d'ailleurs pu résister à me faire aspirer dans les univers des Dominique Fortier. La part de l'océan, roman de secrets et de désirs, écrire, c'est un autre mot pour aimer, constitue l'un des plus solides monuments de sa bibliographie déjà prodigieuse. Kev Lambert, Les sentiers de neige, déboussole et ne peut qu'obliger une révérence devant la qualité exceptionnelle de l'œuvre que construit Lambert depuis 7 ans à peine. Ou bien Éric Dupont. J'ai tout aimé de la ricaneuse, l'érudition, le sourire en coin, les faits historiques magnifiés, la construction habile. Je retrouve le jeune garçon qui regardait les géants dans la forêt de son enfance. Fascination, ravissement, enchantement. Et cet appel à regarder autour, partager la lumière, car aussi majestueux soit-il, ces livres ne manqueront pas d'attention. Être vue, être comprise. Elle s'appelle Dorothée, traverse ses 11 ans dans le Rosemont La Petite Patrie de l'été 2005, tout près Victoria, sa sœur, et Joséphine, leur voisine. Trio de sorcières qui hantent le quartier, qui se hasardent dans cet été qui s'ennuie, ces moments où il n'y a rien à faire qu'attendre les séjours chez la grand-mère, errer dans la ruelle ou se terrer dans le sous-sol pour regarder des films d'horreur. On se laisse ensorceler par l'imagination débordante et le regard affûté de Dorothée, personnage central de « Dorothée et les couleuvres » de Hélène Forêt, qui s'invente mille histoires, imagine des vies aux gens croisés ici ou là, et qui ne peut contrôler ses pensées en spirale, les questionnements existentiels, les éclairs de clairvoyance, la fragile perception de soi. Alors que l'adolescence se pointe, il y a ce souhait de ne surtout pas être différente des autres, de s'effacer, de se diluer, car de toute façon, être regardé ne signifiait en rien être vu, pas plus qu'être vu ne signifiait en rien être comprise. Hélène Forêt réussit à marquer les esprits avec ce premier roman qui jongle avec le sens à donner à une vie souvent suspecte et qui dévoile une mue nécessaire, clin d'œil aux couleuvres du titre, un dépouillement, afin de faire naître un regard neuf sur l'existence. Être vu, être cru. Premier roman également que « Femme silencieuse » de Cristina Vanciu, née en Roumanie au début du millénaire et installée au Québec depuis 20 ans, un texte sans artifice, impressionniste, vrai et courageux, livré dans une langue assurée, une succession de sursauts, souvenirs, listes de nourriture ou d'objets, textos, qui captent des images. Des moments. Ce qui nous blesse, ce qui nous hante, ce qui nous construit, ce que nous voulons mettre à l'abri. Un jeune personnage, 15 ans à peine, des parents exigeants et distants, entame une relation avec un ado trouble, manipulateur, abuseur, qui lui fait vivre l'indescriptible qu'on découvre à coups de textos déconcertants. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se lève, même lorsque personne ne la soutient, qui cherche à briser le cycle de femmes effacées qui se noient dans une pression perpétuée d'une génération à l'autre, d'une femme qui nomme enfin en dépit de cette culture du silence. Malgré la démonstration, une fois de plus, des immenses lacunes du système juridique, malgré l'absence de main tendue, il y a ici un mouvement irrévocable, une libération, une voix qui naît, et même celles et ceux qui ne voulaient pas l'entendre entendront enfin. Enfin. Être cru, rien de plus. Tout brûlé de Lucille de Pesloane et dans le même élan que Vanciu, prendre parole, enfin tout dire, tout brûlé comme le titre l'appelle, l'oblige. Comment lire sans trembler devant l'horreur vécue par Stella, la narratrice, maintenant quarantenaire, prisonnière d'une famille dysfonctionnelle qui lui a fait subir une succession d'abus pendant toute son enfance? 30 ans ont passé, et la parole se libère. Stella porte plainte, dénonce l'inceste et les violences, pointe du doigt celles et ceux qui ont vu, qui ont su, qui ont tu. Les révélations créent des vagues, critiques de membres de la famille, et pourtant, Stella résiste, car le temps est venu de se soulever, de rugir. Les courts chapitres écrits en vers libres se succèdent, et Lucille de Pesloane pourfend l'impunité des hommes qui agressent, blessent et contraignent à partir ou mourir en plus de donner forme à une colère juste. Je suis un volcan, prêt à décharger la lave, prêt à tirer à bout portant. Une voix pour tous ces gens qui portent les stigmates, les traumatismes d'une enfance brisée par celles et ceux qui auraient dû les protéger. Ce livre est important et se doit d'être lu, aussi difficile soit-il. Au milieu des bois, trois livres comme autant de libération. La lumière sur elle. C'était « À l'ombre des géants et géantes », une chronique de Dominique Lemieux parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.
Serge Fiori et l'indépendantisme, une histoire d'amour discrète, un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 24 juin 2025 dans Le Devoir. Des inconnus vivent en roi chez moi, moi qui avais accepté leur loi. Les paroles d'Harmonium cachent en filigrane un attachement sincère à l'indépendance du Québec. Si Serge Fiori n'a jamais caché sa sympathie pour le mouvement politique, le chanteur a vécu une vie discrète qui en a fait un militant de l'ombre. L'album mythique « L'Heptade » est sorti le jour même de l'élection au pouvoir du Parti québécois de René Lévesque, le 15 novembre 1976. Dans la mémoire collective, Harmonium et la montée du Parti québécois, ce n'est pas une coïncidence, ça va ensemble, raconte Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Or, nous ne lui connaissons pas de militantisme politique, remarque-t-il. Lorsque sa popularité deviendra un peu trop intense pour lui, il sortira de la vie publique. Simplement, comme il s'est retiré de la vie publique, on ne l'a pas vu dans les années 1990, des années pourtant très animées sur le plan politique. Cela étant dit, même s'il était absent, son œuvre est restée parmi nous. Des producteurs avaient jadis proposé que l'Heptade soit traduit en anglais pour lancer la carrière aux États-Unis du groupe progressif. La réponse avait été unanime. Harmonium allait être en français, et c'est tout. Serge Fiori a souvent répété que la simple utilisation du français était un geste politique. De créer de la musique en français, c'était une décision très consentie de ma part et politique. Je veux faire de cette langue-là mon instrument et j'espère inspirer des gens socialement et politiquement. C'est vraiment ça depuis le début, racontait-il récemment en entrevue à la télévision d'État. Bien qu'il n'ait pratiquement jamais été de la fête nationale, après ses années avec Harmonium, Fiori est passé très près de composer un nouvel hymne nationaliste. Lui et Pierre Huet, de Beaudommage, ont eu comme idée d'écrire, respectivement comme compositeur et aux paroles, il y a quelques années, une chanson pour la Saint-Jean-Baptiste. Le chanteur d'Harmonium s'est finalement désisté et c'est Luc de La Rochelière qui a signé la musique de la chanson « Nous sommes une île ». La liberté de création qui a guidé l'œuvre de Fiori suffisait ainsi à porter son discours politique. Plusieurs personnes qui l'ont côtoyé se souviennent de cette aura politique qui émanait de lui. La chroniqueuse Nathalie Petrovski, qui a accompagné le groupe en Californie en 1978, parle de ce désir qu'il a eu d'aller ailleurs en français, dans notre langue, avec notre musique, notre culture. Il y avait jadis Beaudommage, Offenbach ou encore Octobre qui chantaient dans le même sens, mais Harmonium était le plus rassembleur selon elle. Harmonium a été la trame sonore d'une génération. La mienne, celle de Fiori, bien sûr. 20 ans plus tard, ce sont les Cowboys fringants qui ont représenté ça. les textes d'Harmonium ont été repris par la suite par d'autres mouvements citoyens, notamment les luttes estudiantines. La phrase « on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter » a souvent été récupérée lors des manifestations étudiantes. Les plus jeunes souverainistes, même ceux nés dans les années 2000, s'attristent aujourd'hui de la perte d'une de leurs idoles, assure Camille Goyette-Gingras, présidente des Oui Québec. Les chansons d'Harmonium, c'est tellement symbolique parce qu'elles servent encore aujourd'hui d'inspiration. Il y a un côté hippie, un côté complètement libéré, un peu déjanté, tout à fait à propos pour le mouvement, affirme-t-elle. Ça fait à peu près 3 ans qu'on constate un renouveau du mouvement. Il a fallu que la Gen Z arrive. Mais avant ça, il a fallu que la gang des années 1970 tienne le fort. On lui en doit une. Pour Michel Rivard, membre fondateur de Beau Dommage et ami de longue date de Serge Fiori, les deux groupes étaient bien ancrés dans la mouvance souverainiste de l'époque, c'est sûr. On était tous des admirateurs de René Lévesque, précise-t-il. Même si les chansons qu'on chantait n'avaient pas souvent des textes politiques, on n'aurait pas pu les écrire ailleurs qu'au Québec. Et puis, on affirmait le fait de les faire en français, de tout faire pour ne pas imiter des groupes américains ou anglais, de faire notre originalité à nous, relate l'artiste au sujet des deux formations qui ont évolué parallèlement dans les années 1970. C'était notre façon d'être souverainiste. Comme pour évoquer les propos de Michel Rivard, Danick Trottier, professeur de musicologie à l'Université du Québec à Montréal, explique que les messages politiques entendus dans les chansons d'Harmonium ne sont jamais des messages directs, comme dans les chansons de Félix Leclerc et de Gilles Vigneault. Chez Harmonium, le message politique est indirect et abstrait, comme c'est très souvent le cas en musique progressive, poursuit-il. C'est d'ailleurs là où Harmonium a joué lors de grands rassemblements ou bien aux soirées de la fête nationale en 1975 et en 1976, que le public a pu percevoir un engagement nationaliste de la part du groupe. C'était Serge Fiori et l'indépendantisme, une histoire d'amour discrète, un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 24 juin 2025 dans Le Devoir.